Marche, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Les chemins. Pas d'avion, des oiseaux. Auditeurs, auditrices, bienvenue pour notre balade sonore. Mais aujourd'hui, particulièrement, je suis très heureux d'accueillir Swan.
Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'ai 23 ans. Je fais des études en lien avec la nature, mais on en parlait tout à l'heure, pour les compétences justement, pas pour apprendre un métier. Voilà, je suis jovial, enthousiaste.
Est-ce que tu peux préciser donc justement le contexte de tes études et consistant en quoi ?
Je fais un BTS, gestion et protection de la nature. Alors on va m'apprendre à être gestionnaire d'un espace, à faire des diagnostics sur des populations, des espaces naturels, tout ça. Et moi c'est pas pour ça que j'y suis allé pour ce que j'y apprends et c'est absolument passionnant. On est sur le sentier, alors là on va monter à la cabane de Roquépi, on est sur le parking de la Fontaine de l'Ours à Arbas.
Célèbre village qui est favorable à la réintroduction de l'ours.
Oui, tout à fait. Alors moi, justement dans le cadre de ces études, je fais une alternance dans l'association du Pays de l'Ours à Arbas, à Dette. Et alors c'est une association qui s'est créée à la base, c'est des communes qui ont créé l'association.
D'accord.
C'est quatre communes, Fosse, Mel, Boutz et Arlos, si je ne dis pas de bêtises, qui sont à l'origine de cette association. Et donc on a le bureau à Arbas, oui, justement. Et dans le cadre de cette association, on a pu réintroduire quelques ours. Les premiers lâchés, c'était en 96. Et on a eu, j'ai plus l'année en tête, mais on a eu des lâchés d'ours à Arbas, justement. Malheureusement, les ours n'y sont pas restés. On sait qu'ils sont de passage de temps en temps, mais il n'y a pas d'ours vraiment dans le coin, quoi. Je te suis ?
Ouais.
Nous marchons dans une forêt de feuillus. Une hêtraie magnifique avec à la base des troncs, une mousse verte, fluorescente. Le ruisseau en contrebas, les oiseaux. Ici, c'est un peu le biotope de l'ours. Et puisque donc tu travailles autour aussi de la protection de l'ours, est-ce que pour toi, l'ours est-il le symbole de la lutte pour la protection de la nature ou un argument publicitaire? Venez dans les Pyrénées, le pays de l'ours. Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
La question est complexe, parce que je pense qu'il y a un peu de tout. Alors, déjà, c'est indéniable à mes yeux que l'ours, c'est le symbole des Pyrénées. Depuis 1900, il restait des ours dans les Alpes et dans les Pyrénées. Puis très vite après, il n'en est plus resté que dans les Pyrénées. Donc c'était vraiment le seul endroit en France où il restait encore des ours, quoi. Je pense sincèrement que c'est un symbole de la lutte pour la nature, pour les droits de la nature, entre guillemets. Mais j'élargirai aussi avec le loup et le lynx, en fait, le retour des grands prédateurs, parce que l'humain, il a toujours voulu avoir le contrôle sur ce qui se passait autour de lui, plus particulièrement sur la nature. Et il y a une époque où c'était très limitant pour nous d'avoir des prédateurs, et puis on les a supprimés, quasiment. Puis c'est pareil pour les petits mustélidés, pour les renards. Et donc je pense vraiment que la réintroduction de l'ours, oui, le développement du lynx dans le Massif central et du loup dans les Alpes, c'est un symbole ouais, d'une espèce de retour en arrière sur... En fait, les prédateurs, ils ont le droit d'être là aussi, quoi. Et le vrai combat, c'est d'apprendre à cohabiter avec eux. Voilà. Et après, je pense aussi que ça peut être de la publicité. Un des jobs de l'asso dans laquelle je bosse aussi, c'est de promouvoir l'attractivité du territoire, en fait, via l'image de l'ours. C'est-à-dire développer les petites auberges au fond des montagnes, développer les petites... les restaurants...
ce qu'on appelle l'écotourisme, en quelque sorte, quoi.
C'est de l'écotourisme, oui, on peut dire ça.
Ouais. On peut dire ça.
Alors, ça c'est le travail de l'association, que je trouve très très justifié. Mais alors, pour moi, personnellement, pour répondre à ta question, entre la promotion du tourisme et la promotion d'une nature préservée, ce qui me touche le plus, moi, c'est la promotion d'une nature préservée. On parlait de la diversité de paysages tout à l'heure qu'on pouvait trouver partout en France, mais également particulièrement dans les Pyrénées. Et sur la route, tout à l'heure, à notre gauche, on avait une hêtraie, à notre droite, on avait une hêtraie sapinière pleine de mousse. C'était déjà deux paysages différents. Et là, on sort à peine de la hêtraie, on est sur un plateau qui est pâturé l'été, avec la crête juste au-dessus. D'ailleurs, il y a un rapace qui plane. Et c'est... tout fermé, tout magnifique et d'un seul coup tout ouvert, tout aussi magnifique d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de diversité en montagne. Et d'ailleurs, considères-tu que la montagne est une bonne éducatrice? Qu'as-tu appris auprès de la montagne?
Eh ben, en termes de vraiment notion naturalisme, en fait,
Pas forcément naturaliste, qu'as-tu appris sur toi?
Déjà, la solitude, c'est un des moyens qui nous amène à se concentrer sur nous, ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps. Et la montagne, c'est des conditions qui sont pas toujours évidentes. Ça monte, en fonction de l'altitude, il y a moins d'oxygène. Et donc on est dans des conditions qui sont un peu moins favorables à... Puis après, pas de réseau, pas internet, pas d'écran. J'y vais rarement seul, mais même quand je suis entouré d'amis, c'est des gens qui ont cette sensibilité-là. Et juste là, ça tombe très très bien. Et juste la prise de son, si on écoute autour de nous les oiseaux, le ruisseau, Là, en plus, on n'est que tous les deux au milieu de cette étendue-là. C'est apaisant, c'est très très apaisant. Et après, moi, ce qui m'intéresse... Enfin, je parlais de naturalisme tout à l'heure. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les écosystèmes, les espèces qu'on y rencontre. Et la montagne, c'est un truc particulier aussi. Moi, j'habite pas très loin d'ici, j'habite à une grosse demi-heure, et en fait, il y a plein d'espèces que je trouverais pas chez moi. Et je parlais d'un rapace tout à l'heure, là, mais les rapaces pyrénéens, c'est fou de se balader et de voir des vautours, c'est fou de se balader et d'espérer voir un gibaète. Enfin, c'est... Ouais.
Tu en parles très bien, en tout cas. Donc ça donne une sensibilité, une approche différente au monde vivant.
Oui, vraiment, je trouve... Et puis, là, on parlait de la hêtraie, par exemple, mais justement, pour reprendre exactement ce que tu dis, la hêtraie, c'est pas vraiment un paysage qu'on peut s'attendre à trouver ailleurs, ou en tout cas, elle est très, très présente dans les Pyrénées. J'ai quelqu'un d'Arbas qui m'a amené pas très loin d'ici, dans une moraine. C'est un ancien... C'est un paysage... avec des rochers, des énormes blocs rocheux partout qui ont été poussés en fait à l'époque par les glaciers. Et c'est des endroits où on se sent terriblement bien, quoi. Il y a de la mousse partout, le son. Alors vu qu'il y a de la mousse, le son est complètement étouffé. C'est très très apaisant. Et la hêtraie, c'est magnifique, les arbres tout tordus qui poussent sur un sol rocailleux, pas forcément très riche. C'est incroyable, je trouve.
D'ailleurs, cela s'entend. Hein, le changement de texture du sol, là, la pelouse, là. Humidifié par la rosée du matin. Ici, on a des chicoyes. Les chicoyes, c'est les petits pissenlits comestibles. Beaucoup de plantes comestibles.
Là, on a des jolies traces de...
Ouais.
Donc là, on passe dans un revoir naturel. C'est on appelle revoir des zones boueuses comme ça, où en fait, on peut s'attendre à trouver des empreintes d'animaux. Et on en voit des très belles, là, d'ongulées. Ouais. Probablement, elles sont grosses, probablement un cervidé.
Du plantain ici. Plantes comestibles. Dans cette zone marécageuse,
du jonc
et du populage des marais. Et on n'avait pas y marché là. La montagne. La vie. Sont autour de nous. Et en parlant de son, es-tu sensible, je le suppose, au son de la nature et lesquels apprécies-tu le plus? Quels sont les sons que tu apprécies le plus?
Je vais revenir encore une fois sur les oiseaux, mais je suis très très sensible aux sons en général. Je trouve que on est trop habitué à avoir des sons... Là, tu parlais de l'avion tout à l'heure, si tu me l'avais pas fait remarquer, j'aurais pas entendu l'avion. C'est dire à quel point on s'habitue à tout ça. Et quand on se retrouve sans toutes ces fréquences-là, ben c'est particulièrement touchant, je trouve. Et je prends pas assez le réflexe de sortir et juste de me balader et d'écouter et d'entendre et de voir autour de ce qu'il y a autour de moi. Mais ouais, les oiseaux, c'est assez impressionnant, surtout au printemps, je trouve. Ouais. Quand il y a la constitution des nids, des couples, des territoires, et que ça piaille dans tous les sens. Là, le matin, le paysage sonore, il est incroyable.
Tu disais touchant. Est-ce que tu peux préciser ce qui te touche dans le chant d'un oiseau ?
Non, je pense que je peux pas l'expliquer. C'est exactement comme cette fascination que j'ai envers la nature en général, bien que ce soit un mot un peu bateau, je trouve, mais c'est une fascination qui n'a pas trop d'explication. C'est juste, ça te donne le sourire et je sais, moi ça me donne le sourire et je sais pas l'expliquer. Hein. Ça m'arrive trop rarement à mes yeux, mais de faire des affûts pour être amené à rencontrer fortuitement, j'ai toujours les jumelles avec moi, toujours. Et en fait, très souvent on voit rien, hein, la plupart du temps on voit rien du tout. Mais par contre, on apprend à entendre, et quand on est tout seul dans la nature, c'est quand même vraiment quelque chose qui est pas fréquent, qui est très rare même. Et même là, il suffit qu'on soit deux et on discute. Et le simple fait de discuter, ça fait qu'on fait moins attention au bruit alentour. Mmh. Et donc être tout seul, assis dans l'herbe, à attendre quoi que ce soit, souvent rien, et ben, ça nous amène à entendre vachement plus. Et on fait attention au petit bruissement dans l'herbe, et ça nous amène à avoir un mulot, et on peut apprendre à analyser tous ces sons. Et ben, ça, je trouve ça c'est encore autre chose, mais c'est passionnant aussi. Et ouais, non, je peux pas l'expliquer, c'est juste, ça me met le sourire, et c'est... Je pense que c'est un rapport particulier, peut-être une sensibilité, un feeling. Voilà, c'est pas explicable trop, je trouve.
Tout ne s'explique pas. L'émotion, la nature, vous rend-elle sensible, auditeur, auditrice ? Allez, on chemine sans un mot, à l'écoute, juste à l'écoute. Dans le petit jet de la source. Ouais, et en fait, souvent je dis paysage sonore ou paysage culturel. Considères-tu que la montagne est au même titre que la chapelle Sixtine un patrimoine culturel ?
Oui, puis je pense que le ciel aussi, par exemple. Oui, patrimoine commun et culturel, parce que, alors c'est moins le cas, mais pendant des centaines et des centaines d'années, on utilisait la montagne, c'était un outil. Donc c'est un patrimoine culturel. La transhumance, le pastoralisme, c'est un patrimoine culturel très très propre aux zones montagneuses et qui est très important dans les traditions, c'est génial, je trouve.
Et les arbres, font-ils partie aussi d'un patrimoine culturel ?
À mon sens, il le faudrait, ouais. Peut-être qu'on aurait une approche un peu plus respectueuse de tout ça si c'était le cas. D'ailleurs, il y a des arbres qui sont considérés comme ça, des arbres multicentenaires au milieu d'un village et qui seront jamais coupés. Et je trouve ça très bien. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui donne plus de droits à cet arbre-là qu'à un autre ? Sinon son âge. Voilà.
Si on confère à la montagne, à la nature, un patrimoine culturel, on n'est pas très loin de lui donner aussi une capacité juridique. C'est un peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, où une rivière, les aborigènes ont réussi à qualifier cette rivière comme étant une personne physique, donc ayant, comme nous, des droits et des devoirs, mais surtout des droits. Donc, si la nature est un patrimoine culturel, elle a des droits au même titre que les droits humains.
Et cet exemple, il s'est appliqué dans quelques autres cas. Beaucoup, c'est peut-être pas le terme, mais c'est quelque chose qui se développe, ouais, de donner une espèce d'identité
juridique
ouais. à une entité et non pas à un individu, comme ça a été fait jusqu'ici, quoi. Et ben justement, pour le gain de droit sur certaines constructions ou modifications du paysage, c'est très très intéressant, comme levier en tout cas.
Perdu.
Oui. Moi, c'est exactement ça que je cherche quand je me balade, quand je vais dans la nature, en fait. Parce qu'on est tellement habitué au bruit, on n'est plus habitué à ça, en fait. Et d'ailleurs, la nature n'est plus habituée à ça non plus. Elle nous subit tout le temps. Quand tu te retrouves seul dans la nature à pas faire de bruit, quand t'es caché, elle se révèle à toi d'une toute autre manière, quoi. Tu fais plus partie du décor et tu remarques que la nature, elle vit sans nous, elle vit bien mieux sans nous. Et elle se révèle vraiment. On ne sera jamais amené à voir ce qu'on voit là si on n'est pas attentif. Et puis si on est nombreux, qu'on parle, qu'on fait du bruit, qu'on chahute. C'est vraiment ça.
Ouais.
Cette discrétion, ça nous amène à voir des trucs.
Bah, c'est une forme d'éducation, non ?
Ça nous amène à voir des...
Tu parlais d'éducation ou transmission, c'est quoi ton point de vue justement par rapport à ça ?
Mais j'ai du mal avec le terme éducation parce que si les gens sont pas intéressés sur le sujet que tu t'apprêtes à leur inculquer, entre guillemets, si tu t'apprêtes à leur inculquer ou à les éduquer sur quelque chose, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que les gens n'en ont rien à faire, en fait. L'exemple que j'utilisais tout à l'heure, c'est moi... La course automobile, j'en ai rien à faire. S'il faut plaider la cause du circuit de Nogaro dans le Gers, bah ça m'intéressera pas. Et du coup, je pense que vraiment, tu utilisais le mot transmission. Le plus important, c'est de se concentrer. L'enjeu pour moi, c'est de se concentrer sur la transmission de la passion. Moi, je suis passionné, je suis ébahi quand je sors. En fait, je pense que l'enjeu, c'est de transmettre cette passion-là. Et les gens qui sont passionnés par quelque chose, forcément, sont tentés d'en défendre la cause, quoi. Donc, si vous voulez que je plaide pour le circuit de Nougaro, bah, passionnez-moi d'automobile, passionnez-moi de course automobile. Et peut-être que j'irai plaider la cause. Enfin, voilà. Je pense que moi, l'enjeu, vraiment, c'est de montrer aux gens de les passionner, de transmettre cette passion-là. Et après, les gens, ils feront le travail tout seuls, ouais, de leur plein gré.
Ouais. Amenons les gens, les enfants, surtout les enfants les plus jeunes, à s'émerveiller.
Exactement.
Du monde qui nous entoure, là, comme cet Isard qui vient de passer très furtivement. Et voilà, il fait sa vie. Et nous, la nôtre, en tous les cas, il a autant le droit de vivre que nous. Sur le chemin. H1000. Nous y sommes. Pelouse alpine. Le brouillard est tombé. Et le silence. Pour terminer, Swan, apprécies-tu ces ambiances particulières? Tout à l'heure, c'était quelques rayons de soleil. Là, le brouillard vient de tomber. On est totalement, je dirais presque perdu, là, au milieu de ce plateau.
Ben, je trouve, le brouillard, ça donne une ambiance très très particulière. Déjà, le simple fait que ça étouffe les sons. On dirait des paysages de films, quoi. Des fois, je me balade dans les Pyrénées, j'ai l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux.
Ouais. Ouais.
Et voilà, les rayons de soleil sur une petite vallée, le brouillard sur les sommets, c'est très particulier, c'est magnifique.
La montagne est un voyage, et surtout, voyager à pied. Et non pas en avion. Ah, ça pollue, hein. Ça pollue. Je te remercie. Quelques pas encore autour de ce plateau.
Quelques pas avant de vous retrouver la semaine prochaine
pour une nouvelle édition du programme H1000. Là, on a l'impression qu'on est au milieu de fumigène. Voilà, la forêt respire, la montagne transpire. Et respectez la nature. Pensez à marcher avec vos jambes et votre tête ira de mieux en mieux. À bientôt. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000. Sur votre
Radio.